Bonsoir à tous. Les deux otages français au Bénin sont libres. Les commandos français les ont trouvés au Burkina voisin. Deux soldats d'élite ont été tués. Nous reviendrons sur les détails de cette opération, sur cette région si particulière d'Afrique où les groupes djihadistes sont encore installés. Le procès France Très Télécom, le procès de la souffrance et des suicides au travail, éclairage inédit et glaçant aujourd'hui d'un psychiatre sur ce mal moderne. Le référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Un problème pour la démocratie selon le gouvernement. La droite, qui s'est alliée à ce RIP lancé par la gauche, se retrouve un peu embarrassée aujourd'hui. Et le Guggenheim débarque en France. Une cinquantaine de chefs-d'œuvre du célèbre musée new-yorkais sont exposés à Aix-en-Provence. De la pluie, encore demain, la météo à la fin de ce journal avec Jean-Pierre Hameau.
France Inter. Libres, les deux otages français au Bénin ont été libérés la nuit dernière.
Patrick Pic et Laurent Lassimouyas avaient été enlevés le 1er mai au Bénin pendant un safari touristique. Le corps de leur guide retrouvé sans vie peu après. Les forces françaises sont allées les chercher dans le nord du Burkina Faso. Un soulagement pour la mère de Patrick Pic.
Ça me fait un choc. On est soulagé. En 92, j'ai déjà perdu un fils en accident de voiture à 22 ans. Voyant ce truc-là de mon deuxième garçon, vous savez, on a pas dormi beaucoup. Hein. Un soulagement, monsieur. Un soulagement.
Un soulagement donc pour les familles et les otages libérés après 10 jours aux mains de djihadistes. Soulagement aussi pour deux autres otages retrouvés avec eux, une américaine et une sud-coréenne, lors d'une opération donc exceptionnelle, a salué la ministre des Armées il y a quelques instants. Mais une grande peine aussi pour Florence Parly, car deux soldats des commandos d'élite de la marine, partis les chercher jusqu'au Burkina voisin, deux militaires ont été tués. Cédric de Pierrepont, né en 1986, et Alain Bertoncello, de 1991, appartenaient au commando Hubert, basé dans le Var. Ils étaient expérimentés et plusieurs fois décorés. Le récit du général François Lecointre, le chef d'état-major des armées.
Les commandos des forces spéciales se sont infiltrés en nuit noire sur 200 mètres, dans un silence absolu, malgré la présence d'une sentinelle qui veillait et qui ne les a pas détectés lors de leur approche. Ensuite, les commandos pénètrent dans les abris sans ouvrir le feu. Au moment où les commandos vont être détectés, ils sont à une dizaine de mètres des abris. Ils entendent les ravisseurs terroristes armés leurs armes à l'intérieur des abris. Ils décident donc de monter à l'assaut des objectifs, mais ils montent à l'assaut sans ouvrir le feu pour être certains de ne pas faire de pertes chez les otages ni de pertes chez d'éventuels civils ou membres des familles des terroristes qui seraient présentes dans ce campement. C'est lors de cette pénétration dans deux de ces abris que les deux commandos marines, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, ont été tués à très courte distance par deux des ravisseurs.
L'émotion du chef d'état-major des armées, François Lecointre. Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir.
On nous avait rejoint pour que l'on comprenne où s'est déroulée la libération des otages. Les forces françaises sont allées les chercher à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de leur enlèvement dans le pays voisin, dans le nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Mali, une zone où des groupes armés et des djihadistes ont leur base.
Oui, il y a vraiment là une myriade de groupes dont certains sont juste criminels, mais ils peuvent agir pour le compte de groupes djihadistes. Et cela, dans la région, il y en a beaucoup, dans le nord du Burkina Faso. Les attaques revendiquées le sont souvent par le GSIM, qui est une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. On trouve encore Ansar al-Islam ou l'État islamique, qui lui aussi a pris pied en Afrique de l'Ouest.
Mais c'est surtout, Claude, une zone très éloignée du lieu de la prise d'otages.
Oui, parce qu'en fait, les deux touristes, ils ont été enlevés dans la réserve de la Panjari, à la frontière, vous le disiez, du Bénin et du Burkina Faso. Et l'opération de la nuit dernière, elle a eu lieu dans le nord du Burkina, près du Mali. On est vraiment à des centaines de kilomètres à vol d'oiseau de l'endroit où ils ont été enlevés, une distance énorme, donc que les preneurs d'otages ont pu parcourir sans être interrompus.
Et justement, on a une idée de qui étaient les ravisseurs.
Alors, il y a quelques minutes, le général Lecointre, le chef d'état-major, a évoqué le risque d'un possible transfert de ces otages vers la Katiba Massina. La Katiba Massina, c'est ce groupe djihadiste malien qui s'appuie notamment sur les revendications de la minorité Peul. Et entre le Mali et le Bénin, vous le savez, Amélie, on parle d'une zone immense. Ça donne une idée de la porosité de cette région, de la circulation de ces groupes armés, de la tâche vraiment terrible auxquelles font face les troupes de Barkhane, c'est 4500 hommes déployés dans le Sahel, une zone où le djihadisme, bien loin de reculer, ne cesse en fait de gagner de l'ampleur.
Claude Guibal de la rédaction internationale sur France Inter, merci à vous. Les hommages aux deux militaires morts pour délivrer les otages n'ont pas tardé. Le président Macron s'incline avec émotion et gravité devant leur sacrifice, lit-on dans le communiqué officiel. De François-Xavier Bellamy à droite à François Bayrou, au Modem en passant par le Parti Socialiste et Marine Le Pen, tous saluent leur mémoire et leur leur courage. Le président de la République accueillera demain les deux ex-otages à Villacoublay, en région parisienne, avec l'otage sud-coréenne, libérée elle aussi cette nuit. Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'hommage national aux deux soldats morts lors de l'opération aux Invalides en début de semaine prochaine.
18h06, le journal Amélie Perrier. La première semaine du procès de France Télécom s'achève et les anciens dirigeants ont été sévèrement mis en cause jusqu'à présent.
Jugés pour harcèlement moral pour les suicides en série en 2008 et 2009 parmi les salariés au moment où le groupe opérait sa mutation. Aujourd'hui à la barre, un psychiatre spécialiste des suicides au travail. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Amélie.
Alors vous suivez les audiences, c'est un éclairage inédit sur ce mal moderne, Corinne.
Oui, Christophe Dejour a étudié le cas de policiers, d'ingénieurs de centrales nucléaires, de magistrats, des gens passionnés par leur travail et qui se sont suicidés. Car le psychiatre le dit d'emblée, ceux qui se suicident au travail, ce ne sont pas les paresseux, les tirs au flanc, mais toujours ceux qui y étaient très engagés. Ceux dont le monde s'effondre quand ce travail devient source de souffrance. Sa déposition ressemble à une passionnante leçon. Avant le XXe siècle, il n'y avait pas de suicide sur le lieu du travail. C'est une pathologie mentale nouvelle, dit le psychiatre, apparue avec la transformation de l'organisation du travail, l'avènement des gestionnaires qui dirigent les hommes à partir de données quantitatives. Et peu importe, affirme Christophe Dejour, le nombre de ces suicides. Ceux survenus à France Télécom font l'objet ici d'une âpre bataille de chiffres entre défense et partie civile. Un seul suicide sur le lieu du travail mérite qu'on s'y arrête, dit-il. C'est comme un accident mortel dans le bâtiment. On arrête le chantier jusqu'à ce qu'on ait compris pourquoi on ne le fait pas pour les suicides sur le lieu du travail. Le suicide détruit le tissu social, ses conséquences sont désastreuses, mais il n'y a pas de fatalité, conclut le médecin. On peut faire autrement. L'organisation du travail, ce sont des choix, des décisions humaines. Les prévenus qui ont écouté sans broncher ce long exposé commenceront lundi à s'exprimer sur les faits.
Corinne Audouin, direct du Palais de Justice de Paris, merci à vous. Des plaintes déposées contre Monsanto par des personnalités et des médias français. On apprend que le géant des pesticides aurait fiché des responsables politiques, des scientifiques ou encore des journalistes en fonction de leurs opinions sur les herbicides. Parmi eux, 6 journalistes de Radio France. Inacceptable, écrit la PDG Sybille Veil qui porte plainte donc. Le groupe allemand Bayer, propriétaire de Monsanto, affirme de son côté ne pas avoir connaissance de ces fichiers. Le cargo saoudien qui devait charger des armes françaises n'aura pas débarqué au Havre finalement. Il fait route vers l'Espagne. Une transaction contestée par des défenseurs des droits de l'homme. La France a vendu des armes à Riyad, des armes qui pourraient être utilisées pour la guerre au Yémen qui tue de nombreux civils. Pas du tout du goût du Premier ministre. Le référendum d'initiative partagée contre la privatisation des aéroports de Paris validé hier par le Conseil constitutionnel. Pour Édouard Philippe, cela pose, je le cite, un vrai et grave problème démocratique. Ce blocage d'une loi votée par le Parlement, s'il se répétait, créerait, toujours selon Édouard Philippe, une situation dangereuse pour la conduite de l'action publique. Fermez les guillemets. À droite, des parlementaires ont accepté de signer le RIP lancé par la gauche. Mais aujourd'hui, face au succès de l'entreprise, bonsoir Élodie Forêt,
bonsoir.
Vous avez rejoint. Aujourd'hui, la droite n'est pas vraiment à l'aise avec ce référendum contre la privatisation
de l'ADP. C'est un exercice d'équilibrisme qui commence pour la droite, car au sein des LR, le RIP ne faisait pas consensus. 3/4 des députés ont signé, mais certains sont mal à l'aise avec le procédé. La direction du parti, elle, ne donne pour l'instant ni position ni consigne officielle. Mais pour Julien Aubert, élu du Vaucluse, Laurent Wauquiez devra bien, à un moment, faire campagne contre la privatisation.
Moi, je pense qu'il serait logique, puisque nous avons voté tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale contre la loi Pacte à cause de la privatisation de l'ADP. Mais je pense que ça se fera dans un second temps, une fois que le référendum sera acté.
Une fois que le référendum serait acté, dans plusieurs mois, donc, certainement pas avant les européennes, renchérit un député. On ne va pas déclencher une guerre interne. Et après l'élection, ce sera à chaque élu de décider ou non de faire campagne. Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais, y participera.
Dans ma permanence, si je peux aider à la collecte, dans ce cas-là, je le ferai. Mais il y a une barrière qui, pour moi, est infranchissable, c'est de faire un tract commun, campagne commune, avec les insoumis, avec les communistes, ou avec les socialistes, très clairement. Il ne faut pas en faire une intersyndicale politique.
Pas question de s'afficher avec la gauche, de brouiller les messages au moment où le parti tente de se reconstruire en reséduisant notamment les électeurs de François Fillon, l'ex-candidat à la présidentielle qui, rappelons-le, était pour les privatisations.
Merci Élodie Forêt. Notre-Dame à l'Assemblée nationale, les députés examinaient aujourd'hui le projet de loi pour la restauration de la cathédrale de Paris, ravagée par un incendie. Débat passionné sur les délais réduits de construction, sur les dérogations dérogations envisagées sur la gestion des dons. Lui avait tué un gendarme en 2016 en forçant un barrage routier en Ariège. Le multirécidiviste âgé de 33 ans a été condamné à la prison à perpétuité. Les jurés ont suivi les réquisitions sévères de l'avocat général. L'homme n'avait exprimé aucun regret pendant son procès. Responsabiliser les réseaux sociaux, c'est le défi lancé par la France dans un rapport rendu public aujourd'hui, au moment où Emmanuel Macron recevait à l'Élysée Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Parmi les pistes pour combattre les discours haineux en ligne, une autorité administrative indépendante à l'image de la régulation opérée dans le secteur bancaire. La prime mobilité obligatoire, plus seulement facultative, c'est le souhait de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Cette prime doit favoriser le vélo et le covoiturage. Une prime sans cotisation sociale ni fiscalité, jusqu'à 400 euros par salarié. Il pourrait y avoir aussi un élargissement aux trajets en voiture dans les zones rurales pour compenser la hausse des prix des carburants. Et puis fini le Parc des Princes pour Neymar. L'attaquant vedette du PSG est suspendu 3 matchs, plus 2 avec sursis. Sanction après son mauvais geste contre un spectateur breton après la défaite parisienne en finale de la Coupe de France. Le Brésilien va pouvoir jouer demain à Angers, mais il va manquer les 2 derniers matchs de la saison à domicile contre Dijon et Reims. Il ne pourra pas jouer non plus le Trophée des Champions cet été à Shenzhen.
La dernière page de votre journal, Amélie Perrier, c'est la tradition le vendredi, la prescription du service culture de France Inter.
Et vous ne pouvez pas aller au Guggenheim à New York, et bien le Guggenheim vient à vous, à Aix-en-Provence. 49 chefs-d'œuvre du musée américain sont exposés à l'hôtel de Caumont, de Manet à Picasso, des toiles issues essentiellement de la collection Tannhauser, un marchand d'art qui a beaucoup compté dans l'histoire de l'art. Visite de l'exposition à Aix avec Isabelle Pasquier.
Dans leur paradis des peintres, Cézanne et Van Gogh doivent frissonner d'émotion, car c'est la première fois que les sublimes montagnes à Saint-Rémy-de-Provence de Van Gogh et que les carrières ocre de Bibémus, peintes par Cézanne, reviennent là où elles ont été créées. Ces chefs-d'œuvre font partie de la collection Tannhauser, Heinrich et son fils Justine, des œuvres léguées dans les années 60 au musée Guggenheim de New York. Devant nous, une femme face à son miroir de Manet, l'un des premiers Picasso, le Moulin de la Galette, mais également une montagne bleue de Kandinsky et un parterre de fleurs signé Paul Klee, car Heinrich Tannhauser a été le premier à les collectionner et à les exposer à Munich. Cécilia Braschi est responsable des expositions à l'hôtel de Caumont.
Par exemple, les impressionnistes qu'il montre pour la première fois. Et en même temps, il avait aussi le courage d'exposer les nouvelles générations d'artistes munichois. Il présente donc la première exposition du mouvement du Cavalier Bleu, Kandinsky, Marc, Klee. Ces artistes étaient traités par la critique munichoise de malades mentaux. Et donc, c'est vraiment un parti pris de soutenir les nouvelles générations d'artistes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Tannhauser s'installeront à New York. Les tableaux restés en Allemagne seront détruits lors d'un raid aérien. Mais 90 œuvres mises en dépôt dans un musée d'Amsterdam seront épargnées.
Voilà, le Guggenheim s'expose à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence et jusqu'au 29 septembre.
C'était le journal d'Amélie Perrier.